Alors, il paraît que l'union fait la force. C'est une des citations, de ces citations qui ont souvent été dites, hein. D'ailleurs, on ne sait même pas depuis quand on les dit, on la remonte au moins jusqu'à Platon, pour dire l'ancienneté de cette expression. Et quelque part, si elle a traversé autant d'années, autant de cultures différentes, c'est bien qu'elle doit avoir une part de vérité. Ou alors, c'est parce que les êtres humains et l'unité, c'est pas trop ça. Et parce que il y a peut-être toujours eu un besoin de rappeler cette vérité. Et justement, cette campagne dont Paul a parlé tout à l'heure, qu'on parcourt ensemble en union d'église au niveau national, elle nous invite à réfléchir au thème l'église dans le projet de Dieu pour le monde, d'abord dans le cadre de notre union, mais aussi dans notre église, dans nos églises locales. Et puis, au niveau personnel, notre union à Dieu, notre communion à Dieu. Et aujourd'hui, le thème n'est autre qu'un jeu de mots, comme on aime bien le faire en français, en comme une union, en communion, avec une petite parenthèse, comme une union. Et on pourrait le reformuler ainsi, peut-on être une union, une église, sans communion? Ou alors, qu'est-ce que la communion qui nous permet de nous définir en tant qu'union, en tant qu'église? Ou encore, comment, à mon niveau personnel, hein, comment est-ce que je peux favoriser la communion autour de moi, dans mon église? Et il y a déjà 2000 ans, c'est l'apôtre Paul de Tarse, qui ressentait aussi le besoin de rappeler cette vérité à l'église qui était à Corinthe. Et voici comment il leur rappelle. Et vous verrez que ce texte, nous l'avons déjà un petit peu entendu tout à l'heure. Eh bien, le Christ est semblable à un corps qui se compose de plusieurs parties. Toutes ces parties, bien que nombreuses, forment un seul corps. Et nous tous, juifs ou grecs, esclaves ou personnes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps par le même Esprit Saint. Et nous avons tous bu de ce seul esprit. Le corps ne se compose pas d'une seule partie, mais de plusieurs. Si le pied disait « Je ne suis pas une main, donc je n'appartiens pas au corps », il ne cesserait pas pour autant d'être une partie du corps. Et si l'oreille disait « Je ne suis pas un œil, donc je n'appartiens pas au corps », elle ne cesserait pas pour autant d'être une partie du corps. Si tout le corps n'était qu'un œil, comment entendrait-il? Et s'il n'était qu'une oreille, comment sentirait-il les odeurs? En réalité, Dieu a disposé chacune des parties du corps comme il l'a voulu. Et il n'y aurait pas de corps s'il ne se trouvait en tout qu'une seule partie. En fait, il y a plusieurs parties et un seul corps. L'œil ne peut donc pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Et la tête ne peut pas dire non plus aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Bien plus, les parties du corps qui paraissent les plus faibles sont indispensables. Celles que nous estimons le moins, nous les entourons de plus de soins que les autres. Celles dont il est indécent de parler sont traitées avec des égards particuliers, qu'il n'est pas nécessaire d'accorder aux parties plus convenables de notre corps. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur aux parties qui en manquent. Ainsi, il n'y a pas de division dans le corps, mais les différentes parties ont toutes un égal souci les unes des autres. Si une partie du corps souffre, toutes les autres souffrent avec elle. Si une partie est honorée, toutes les autres s'en réjouissent avec elle. Amen. Quoi de mieux pour parler de comme une union que d'utiliser l'exemple du corps? Et pourtant, cette image, elle est aussi imparfaite. Parce que dans notre imaginaire du corps, du cœur, le cerveau, les mains sont très souvent perçus de façon plus importante que la rate, la clavicule, même les pieds, le menton. Un petit peu comme si ces parties du corps, même si elles ont toutes la même importance, finalement, pour nous, bah, elles sont pas toutes égales. Et franchement, on préférerait sûrement être comparé à un cerveau qu'à une rate. Et c'est important de se dire que cette image, elle est imparfaite, partielle, parce qu'elle n'est qu'une image. Elle n'est qu'une image, mais elle illustre une vérité plus grande, celle du corps du Christ, celle de l'Église. Et malgré cette image partielle, je vous invite quand même à voir comment elle nous pousse à vivre en communion. Et on va le voir à travers quatre détails intéressants. Premier détail, il concerne notre statut dans la société. Et au premier siècle, les inégalités au sein de la société sont omniprésentes. Vous me direz que même si on a fait quelques progrès ces dernières dizaines d'années, en France, hein, dans notre contexte local, ces inégalités sont toujours présentes aujourd'hui. Parce que du temps de Paul, c'est vrai, l'esclavage, c'était le poumon de l'économie. Et d'ailleurs, on estime, hein, en termes de population, à un tiers de personnes libres et à deux tiers d'esclaves, sur une dizaine de millions d'habitants de l'Empire romain. Et Paul avait l'habitude, dans ses lettres, et dans ses exposés, hein, de sa compréhension de la foi chrétienne, d'utiliser quatre couples de statuts sociaux qui illustraient un rapport de domination malsain, finalement. Il y avait l'esclave et le maître, la femme et l'homme, les enfants et les parents, et puis l'indigène et l'étranger. Et si on réfléchit bien, ces couples de domination n'ont peut-être pas beaucoup changé. Il n'y a plus d'esclavage à proprement parler en France, mais il y a toujours des abus, et dans tous les cas autant d'inégalités. La femme est toujours défavorisée par rapport à l'homme, même dans l'Église, sans compter toutes les violences conjugales. Les enfants, même si les châtiments corporels sont interdits, et heureusement, ils sont toujours aussi fragiles, aussi victimes de violences, notamment pédophiliques, l'actualité en témoigne. Et enfin, que dire de l'indigène et de l'étranger aujourd'hui, quand les débats se cristallisent et que l'homme commence à plus revendiquer son identité géographique que son identité humaine. Et c'est d'ailleurs ce que le pape François disait, j'ouvre les guillemets, « On est tous migrants, l'homme est migrant par nature, il l'a toujours été. » Fin de citation. Et quelle est la réponse finalement de l'Évangile? Quelle est la réponse du Christ? Eh bien, Paul la donne quelque part au verset 2 en disant « Et nous tous, verset 13, pardon, nous tous, juifs ou grecs, esclaves ou personnes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps par le même Saint-Esprit et nous avons tous bu de ce seul Esprit. » Et la clé, quelque part, pour être en communion malgré nos statuts sociaux différents, eh bien, c'est bien de ne pas considérer l'autre selon son statut, mais de le considérer pour lui-même. Et on comprend ici que Paul ne parle pas de baptême au sens premier de l'acte ecclésial, mais il utilise cette même métaphore de l'eau, de la plongée, de l'immersion, pour évoquer l'action de l'Esprit. On est tous immergés Et c'est l'Esprit qui nous unit personnellement à Christ, par la foi. Et comme tous ces lecteurs, les lecteurs de Paul, proclament cette même foi, eh bien Paul peut affirmer qu'ils sont unis les uns les autres au Christ, comme un tout, comme un seul corps, par l'action de l'Esprit et par la foi commune qu'il nous donne. Et c'est bien pour cette raison, du fait que l'Évangile est gratuit et accessible à tous, que ce même Évangile nous invite à considérer l'autre comme notre égal. Deuxième détail, il concerne nos différences. Et Paul continue d'utiliser l'image du corps. Ce corps, si impressionnant de par toutes ses fonctionnalités, et on le remarque d'ailleurs plus quand on est en mauvaise santé que quand on est en bonne santé. Et Paul relève plusieurs sens, le toucher, la vue, l'ouïe et l'odorat. Mais il les relève non pas en les listant simplement comme une liste ennuyeuse de différentes parties du corps, il les valorise. Mais ces sens, c'est important de le voir, ils ne sont pas valorisés pour ce qu'ils font, ni même pour ce qu'ils sont, ils ne sont pas comparés. Paul ne cherche pas à dire par là que voir est plus important qu'entendre, ou vice-versa. Mais par contre, Paul valorise simplement ses sens par le fait qu'ils sont différents. Et plus particulièrement que ces parties du corps, liées au sens, elles sont différentes. Alors, vous avez un petit peu plus loin là, une affirmation. Paul qui dit, il se rassure, il dit « Dieu le veut ». Dieu l'a voulu ainsi, c'est comme ça, parce que Dieu l'a voulu. Et même, elle pourrait être un peu perçue comme simpliste, on se réfugie derrière la volonté de Dieu. Mais c'est quand même fondamental. C'est fondamental, parce que, et Paul le conclut ainsi, « Il n'y aurait pas de corps s'il ne se trouvait en tout qu'une seule partie. S'il n'y avait que des yeux, il n'y aurait pas de corps. » Et c'est bien la différence qui fait qu'il y a un corps. Et quand on parle de différence pour nous, finalement, on peut la trouver à tous les niveaux. La culture, l'âge, le genre, la langue, les habitudes, la foi, les plaisirs, les talents. Et puis, plus concrètement, dans nos familles, dans l'église ou avec nos collègues de travail, il y a souvent deux teams, la team sport ou pas sport, la team foot ou rugby pour ceux qui ont regardé hier soir le match, la team chocolatine ou pas en chocolat, débat éternel, la team série ou la team livre, la team introvertie ou la team extravertie, et on peut continuer la liste aussi longue qu'on le pourrait, comme nous l'ont décrit un petit peu dans le sketch. Et puis, tout ça, quand même, malgré tout, ça forme un corps. Un seul corps. Et pour ceux qui ont suivi la campagne depuis le début, qui étaient là il y a deux semaines, on peut se souvenir que durant cette première semaine, il était évoqué le fait qu'il y a un seul Dieu, un seul Seigneur, un seul esprit, un seul corps, une seule foi. Alors oui, notre communion dans et avec nos différences, eh bien, c'est un fait. C'est même un état de fait. Elle est là, elle est présente, elle nous est donnée par Dieu. Après, vivre cette communion, ça c'est un autre défi. Et on ne sait pas toujours comment le faire, comment la vivre. Parce que comment imaginer pour pouvoir vivre avec mon conjoint qui est ceci ou cela, alors que moi, pas du tout. Comment imaginer vivre au quotidien, dans mon travail, avec mes collègues ou avec mes frères et sœurs dans l'église? Comment? Alors, il y aurait moult réponses. Mais je vous en laisse une, qui est simplement le pardon. Exercer le pardon mutuel dans la famille, dans le couple, entre parents et enfants, entre frères et sœurs, mais aussi et simplement avec notre prochain, finalement. C'est déjà ça, une belle façon de vivre en communion. Un troisième détail que Paul relève, il concerne notre état du moment. Alors, pas notre humeur, mais plutôt notre situation professionnelle, ou financière, ou plutôt, autrement dit, comment est-ce que je me place sur l'échelle de la réussite ou de l'échec. Est-ce que je vis une période actuellement où les comptes sont au vert, où j'ai réussi ma carrière, où ma famille va bien, où je suis simplement épanoui du fait de ma réussite? Ou bien est-ce que je vis une période difficile, une période qu'on pourrait qualifier peut-être d'échec, avec des difficultés professionnelles, avec des difficultés d'ordre financier, ou bien avec une situation familiale compliquée? Et c'est le verset 21 qui illustre le mieux ce troisième détail. Et ce qui est intéressant, c'est de voir les comparaisons, cette fois-ci, que fait Paul. Et on comprend d'ailleurs assez bien quand il dit que la tête ne peut pas dire non plus aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Ça, ça paraît assez logique, parce qu'on a besoin des pieds pour se déplacer. Donc la tête a besoin des pieds. Mais par contre, comment est-ce que Paul peut dire « l'œil ne peut donc pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi ». En quoi est-ce que l'œil aurait vraiment besoin de la main ? Pour voir, il n'en a pas besoin. Pour toucher, ce n'est pas son but. Et c'est cette comparaison qui peut venir nous interpeller et nous encourager. Elle peut nous interpeller parce que l'Évangile nous invite à considérer, à nous intéresser à celle ou celui dont nous n'avons pas du tout besoin. Et vous avez peut-être déjà remarqué comment c'est facile de chercher à tisser une relation avec quelqu'un qui réussit, avec quelqu'un qui à qui tout semble sourire, parce qu'on aimerait peut-être savoir comment il fait. Et comment, à l'inverse, ce n'est pas le plus facile d'aller vers quelqu'un dont on n'a aucun besoin. Mais je vous encourage à faire cet exercice. Et peut-être que le repas en commun, qu'on prendra tout à l'heure, peut être une petite étape où on peut simplement essayer de manger avec des personnes dont on n'aurait pas eu le réflexe d'aller avec. Alors même si l'Évangile nous invite à considérer notre prochain, eh ben c'est pour une raison bien précise. C'est parce que Dieu nous considère toujours, s'intéresse à nous toujours, malgré finalement notre petitesse, malgré nos différences monumentales avec lui, Dieu s'intéresse à nous, à chacune et à chacun d'entre nous ici, à chaque être humain finalement sur cette planète Terre. Dieu nous aime. Et le quatrième et dernier détail, il concerne nos souffrances. Une souffrance qui est inhérente à notre condition humaine, finalement, et depuis bien longtemps. Et si on est tous un jour confrontés à la souffrance, on n'est pas égaux dans ce domaine-là. Il y a des gens qui souffrent bien plus que d'autres. Soit si on prend l'ensemble de leur vie, et donc là on parle de quantité, quelqu'un qui souffre souvent, voire tout le temps. Il y en a qui sont toujours plus ou moins malades. Ou bien on peut parler de qualité, d'intensité de la souffrance. Par exemple, comme l'un de mes meilleurs amis qui a mon âge et qui, fin novembre, a été diagnostiqué d'un cancer, de la trachée. Et heureusement, il a été soigné à temps, mais il a dû subir une très grosse opération. L'opération aurait pu avoir des conséquences très graves, il aurait pu perdre sa voix. Mais aujourd'hui, il va mieux. Mais on pouvait peut-être imaginer l'intensité pendant ces 3 mois, l'intensité de la souffrance. Et vivre la communion quand l'autre souffre, ou quand c'est moi qui souffre, je pense qu'on l'a plus ou moins tous expérimenté, au moins une fois, quand face à la souffrance, on a vu une main compatissante tendue vers nous. Et c'est peut-être l'exemple le plus spectaculaire de communion, parce que quand un membre souffre, eh bien tout le corps souffre. Quand on apprend que son ami souffre, ce sont tous ses amis qui souffrent avec lui. Suivre le Christ, c'est aussi suivre quelqu'un qui a souffert. Quelqu'un qui est allé jusqu'à donner sa vie pour ses amis. Et je ne peux qu'inviter ceux qui ne souffrent pas, ou moins, à montrer leur compassion envers ceux qui souffrent. Leur montrer de l'intérêt et être là, à leur côté, prêt à les aider comme ce bon samaritain, ce Christ qui lui-même, par compassion, s'est donné pour l'humanité. Et en guise de conclusion, et pour illustrer le fait que l'union fait la force, je vais vous donner un petit exercice. Vous avez vu le sketch tout à l'heure, et il illustre très bien ce dessin animé de Disney. Alors, j'ai des références cinématographiques adaptées à ma situation actuelle. Ce dessin animé de Disney, Zootopia, qui est actuellement au cinéma, le numéro 2, et qui raconte l'histoire d'une ville où tous les animaux semblent vivre ensemble en paix. Carnivores, herbivores, tous ensemble en paix. Et on suit les aventures de deux policiers que rien ne rassemble à première vue. Une lapine, herbivore, et un renard, un petit peu plus carnivore. Et eux croient, avec utopie, hein, c'est le jeu de mots du titre, que ce vivre ensemble est possible. Mais ils découvrent, au final, que ça ne l'est pas, en l'état. Ils découvrent qu'on leur a menti. Et finalement, on voit à travers le déroulé que c'est leur amitié, leur espérance, l'un envers l'autre, qui est mise à mal tout au long de leurs aventures. Et ils en arrivent même à croire que leurs différences sont trop fortes, qu'ils sont condamnés à finalement rester ce qu'ils sont, des animaux différents qui ne peuvent pas cohabiter. Mais c'est là que, sans vous spoiler, hein, il y a une réconciliation, et cette phrase que la lapine dit à son ami le renard, c'est bon. On peut être différent, on a le droit d'être différent. Il suffit de s'apprécier chacun pour ce qu'on est. Et c'est quelque part une invitation du Christ à vivre cette communion qu'il nous donne, malgré nos statuts sociaux, malgré nos différences, malgré notre différence sur l'échelle de la réussite, malgré nos souffrances, à vivre cette communion avec lui, à vivre cette communion aussi entre nous. Chacun avec son prochain, dans l'Église, mais aussi, et peut-être surtout, en dehors. À vivre cette communion dans notre union, avec les autres églises de l'union, quand l'une d'entre elles est différente, quand l'une d'entre elles souffre, et qu'on pourrait aider, ou qu'elle soit en meilleure santé que nous, et qu'elle pourrait nous aider. Et c'est là la communion, la communion, cette communion donnée par Dieu, qui est là et qui, finalement, nous invite à la rejoindre et à la vivre. Amen.